La lecture que je vous propose, c'est au psaume de la Bible, psaume 139, à partir du début. Je voudrais vous dire en introduction que lors des services funèbres que j'ai eu à présider tout au long de mon ministère, j'ai toujours proposé ce psaume aux familles, parmi d'autres textes de la Bible, et que jamais aucune famille n'a voulu le choisir. Cela m'a interrogé. Et je voudrais vous suggérer une question et une réponse à son sujet. Pourquoi ce psaume ne plaît-il pas, en tout cas aux enterrements, où on a besoin d'une parole, d'encouragement, d'une présence tonique, souriante, me semble-t-il. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, ta droite me saisira. Si je dis, les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour, les ténèbres comme la lumière. Frères et sœurs, si ce psaume vous a rendu anxieux, je vous fais une seconde lecture qui va vous encourager. Dans l'épître aux Colossiens, au chapitre 1, Paul dit « Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui, pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Amen. Je vous invite à chanter le cantique 80. Les strophes 1, 2 et 3, levez-vous et chantons. Nous t'invoquons, ô notre Dieu, mais ta présence est déjà dans nos cœurs. Nous ne te dirions pas « c'est toi » si tu n'avais déjà murmuré en nous « c'est moi ». Parle-nous, nous t'écoutons. Peut-être n'avons-nous pas envie que Dieu voie toujours tout ce qu'on fait. Peut-être craignons-nous que Dieu sache tout ce qu'on dit, que Dieu ait connaissance de tout ce qu'on pense. Peut-être que nous trouvons que ce regard permanent sur nous a quelque chose d'inquiétant, de menaçant. Vous savez, quand Victor Hugo disait « l'œil » dans la tombe et regardez Caïn. Peut-être que les gens disent « ce psaume tout de même est très inquiétant ». Alors, j'ai essayé d'écrire le contraire de ce psaume. Vous allez voir si c'est plus rassurant. Éternel, tu ne te rends pas compte de notre vie, je ne me sens pas compris. Je m'assieds, je me lève et tu regardes ailleurs. Quoi que je pense, tu n'en tiens pas compte. Où irais-je pour toucher ton esprit? Tu n'es jamais là. Aujourd'hui, les ténèbres me couvrent. Je ne vois aucune lumière devant moi. Les ténèbres demeurent obscures autour de moi. Moi, je trouve que c'est encore plus terrifiant. Mais la question, naturellement, c'est pourquoi a-t-on peur du regard de Dieu? C'est peut-être parce qu'on pense qu'il est menaçant comme le regard de l'agent de police qui vous arrête et dont vous dites « il va sûrement trouver dans ma voiture quelque chose qui n'est pas en ordre », comme l'instituteur qui corrige une dictée. Il y a toujours, naturellement, des accords de participe qu'on n'a pas vus. Quelle idée se fait-on de Dieu lorsqu'on a peur de penser que Dieu nous connaît et nous voit toujours? L'idée, peut-être, c'est que c'est fréquent, d'un vieillard dans le ciel à notre image, comme nous, nous aimerions être, comme nous, nous serions, si on nous rendait tout puissant, omniscient, omniprésent. Un Dieu à notre image. Après tout, quelqu'un a bien dit, si les chevaux pouvaient avoir une idée de Dieu, ils diraient c'est comme un grand cheval. Si nous pouvons nous faire une idée de Dieu, c'est peut-être horreur. Un Dieu comme nous serions, redresseur de tort, peut-être, arrêtant le chauffard dangereux, punissant le loupard justiciers, culpabilisants, menaçants, méchants. Mais Dieu n'est pas à notre image. Heureusement, il est à l'image de Jésus. C'est cette fausse image, facilement moralisatrice, culpabilisante, qu'on projette alors sur le psaume 139, lorsqu'on en a peur, lorsqu'on ne le veut pas. On a facilement cette idée. Je pensais aux messes que l'on dit chaque année au mois de janvier pour le repos de l'âme du roi Louis XVI. Je n'ai pas de sympathie particulière pour le roi Louis XVI, mais enfin, je pense tout de même que depuis 1793, cela fait 225 ans qu'il est dans les flammes du purgatoire, qu'on fait chaque année une messe pour le repos de son âme, et que Dieu, semble-t-il, répond chaque année non, pas encore. Quelle idée de Dieu risque-t-on alors de faire ? D'ailleurs, on entend dire souvent, c'est les enfants qui le disent, quand ils reviennent du catéchisme, pas à l'oratoire, mais dans les autres paroisses. La religion, c'est tout ce qui est interdit. D'ailleurs, les gens disent ça. Dieu est contre le divorce, Dieu est contre l'homosexualité, Dieu est contre l'IVG. Avez-vous remarqué hier, à la télévision, la liesse populaire extraordinaire de tous ces jeunes en Irlande qui étaient heureux d'être délivrés du règlement catholique concernant l'IVG. Pas seulement les catholiques d'ailleurs, il y a aussi des protestants conservateurs en Irlande qui eux aussi étaient tout à fait contre, vous savez, les orangistes en orange. Dieu qui contre ça, qui est contre le contrôle des naissances, qui est contre l'euthanasie, qui est contre l'assistance médicale à la procréation, qui est contre la gestation pour autrui. Pas chez les protestants, nous avons une déclaration de la Fédération protestante, du comité d'éthique, que j'ai trouvée libérale, remarquable, très bien, j'en suis content, attention quand même. D'ailleurs, disent les gens, finalement, on n'a pas besoin de Dieu pour penser librement en homme du XXe siècle. Hier, à la télévision, les journalistes parlaient tout naturellement de la modernisation de l'Irlande, maintenant qu'on est libéré des règlements catholiques et orangistes. Un fidèle d'une paroisse dont j'étais pasteur, un conseiller presbytéral même, un modèle, m'a dit « Les athées ont tort ». Nous sommes bien d'accord, mais ils sont quand même plus heureux que nous. C'est un peu, me semble-t-il, la raison pour laquelle on craint ce psaume 139. Alors, j'ai trouvé une parole réconfortante d'une collègue, la pasteure Lorraine Van Ham, qui est pasteure à Berkeley en Californie, et qui a écrit ceci, je vous le traduis, parce que ça nous décoince, à supposer qu'on soit coincé. Elle écrit « L'univers a commencé sa gigantesque expansion complexe et impressionnante il y a 13 milliards 700 millions d'années et l'humanité est arrivée sur scène qu'il y a 5 millions d'années. Dieu est donc et a été le Dieu de bien des choses, et pas seulement de l'humanité. Tout ce qui a existé pendant ces milliards d'années et tout ce qui existe actuellement vivait de sa vie, de sa créativité. Toute vie, continue Lorraine Van Ham, toute vie est une manifestation de la vie, du mouvement, de l'être de Dieu. Mon voisin de palier, les rangées de légumes de mon potager, l'hôtesse de l'air, les chats sauvages derrière la piste cyclable, les otaries du delphinarium, etc., etc. Dieu est la vie. Et la vie vibre partout, autour de nous, comme nous le constatons bien. Et je pense qu'elle a raison, cette pasteur. D'ailleurs, c'est ce que disait l'auteur de l'Épître aux Colossiens. En lui, celui que l'auteur appelle le fils de son amour, en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles. Tout a été créé par lui, pour lui. Toutes choses subsistent en lui. Ce dynamisme créateur est à l'œuvre depuis la fondation du monde. Paul le nomme le fils de son amour. Et il voit ce dynamisme créateur, l'axe du monde, à l'œuvre en Jésus-Christ. Alors je voudrais vous citer, déjà dans l'Ancien Testament, au livre des Proverbes, au chapitre 8, un texte remarquable. Je vous apprends le mot hébreu, chokma, avec un « ch » au début. La chokma, on le traduit par sagesse. Mais vous allez voir que cela ne va pas du tout, parce que quand on dit sagesse, on pense à un enfant qui ne bouge pas les pieds pendant le culte et qui est immobile. Et là, c'est exactement le contraire. La chokma, c'est la créativité divine. Proverbe 8 écrit, c'est la chokma qui est personnalisée. L'Éternel n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là, dit la chokma. Lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre, auprès de lui. Et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de la terre et trouvant mon bonheur parmi les fils des hommes. Ézéchiel, le prophète, en un temps de dépression du peuple pendant l'exil à Babylone, Ézéchiel ne dit pas la chokma, il dit un mot synonyme, la ruach, que l'on traduit maladroitement aussi par esprit, parce que esprit, vous savez, les Anglais disent ghost, le saint fantôme, mais ce n'est pas du tout ça. La ruach, c'est le même dynamisme créateur que la chokma, et il dit, Dieu dit, parle à la ruach, et dis-lui la vie sur ses ossements, et tous ses ossements sur la vallée, complètement sec, se lève et vive. C'était une armée nombreuse, très nombreuse, car la ruach est créatrice. Jean, dans son évangile, dira le logos en grec. Et il donne le même sens, sans doute, à ce mot logos qu'on traduit par la parole ou le verbe. Cela aussi manque de dynamisme. Au commencement était le logos. Le logos était avec Dieu. Le logos était Dieu. Il était au commencement avec Dieu et toutes choses ont été faites par lui. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. En lui était la vie et la vie était la lumière des hommes. Paul, s'adressant aux Athéniens, dira simplement Dieu. Et quand il dit Dieu, vous allez voir, c'est bien autre chose que lorsque les Athéniens disaient Zeus. Quand il dit « En Dieu, nous avons la vie, la respiration, le mouvement et l'être », franchement, cela ne fait pas peur, cela n'est pas menaçant, cela est une force qui monte en nous et qui nous rassure lorsque justement nous pensons que nous manquons de vie. La vie, l'élan vital qui monte en nous comme la sève monte dans les plantes, comme l'électricité fait fonctionner les machines. La respiration, sans laquelle nous serions étouffés en nous-mêmes, barricadés, asséchés. Le mouvement, sans lequel nous serions sans force, fatigués, incapables de se lever le matin, avec tout ce qui nous attend, et l'être, parce que nous ne sommes pas des robots, nous avons une présence divine en nous. Dieu nous donne la vie, la respiration, le mouvement et l'être. Loren von Ham a bien raison de parler des légumes de son potager qui poussent parce que le dynamisme créateur de Dieu les fait pousser, comme c'est le cas depuis 14 milliards d'années. L'hôtesse de l'air aussi, et les chats sauvages également. Et je prolonge sa confession de foi, qui était celle de la Chokhma, de la roi, du Logos, de Dieu. La Chokhma, cette présence de Dieu, accompagnée il y a 3 milliards et demi d'années, la première bactérie qui s'est, dit-on, partagée en deux, et la Chokhma lui disait: allez, vis, partage-toi. Et elle l'a fait. Les premiers êtres, les premiers poissons, mammifères, je ne sais pas trop, qui il y a 400 millions d'années sont sortis de l'eau. Un poisson ne peut pas sortir de l'eau. Ils sont sortis de l'eau. Ils ont dit: peut-être. Et la Chokhma a dit: oui, vivez. Eh bien, ils sont sortis de l'eau. Ils ont vécu. Dieu, quand on dit peut-être, Dieu dit oui, parce que c'est le Dieu créateur de la vie. Il ne dit jamais non. Et c'est en cela que les jeunes d'Irlande avaient raison hier soir de chanter leur joie, un grand oui, parce que ce n'est pas Dieu qui est frileux et qui incite à la prudence, c'est nous qui sommes frileux et qui avons peur de l'avenir. Dieu est l'âme du monde, la vie du monde, il est l'harmonie, il est le grand mouvement de la vie du monde. Et pour que nos esprits trouvent la paix, il faut leur donner du repos en Dieu. Ne dites jamais, Éternel, tu ne te rends pas compte de notre vie. Je ne me sens pas compris. Je m'assieds, je me lève et tu regardes ailleurs. Dieu est notre vie, notre mouvement et notre être. Et dites: tu sais quand je marche et quand je me couche. Tu m'entoures par derrière et par devant. Tu mets ta main sur moi. Si je dis les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Dieu en nous, nous en Dieu, la paix avec nous, la paix en nous et la paix par nous. Amen.